France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus ce matin dans la tête de Montesquieu, l'esprit des lois, les lettres persanes, les fictions, la politique. Et pour en parler, j'ai le bonheur de recevoir une spécialiste. Elle connaît Montesquieu et son œuvre par cœur. Professeure émérite à l'École normale supérieure de Lyon, elle est la présidente de la Société Montesquieu et elle est directrice des œuvres complètes de Montesquieu chez ENS Éditions et Classique Garnier. Elle a contribué à ce magnifique volume dirigé par Aurélia Gaillard, Montesquieu, l'esprit des lois, lettres persanes qui vient de paraître dans la très belle collection Bouquins et Mola. Bonjour Catherine Volpilac-Ogé.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, ravi de vous recevoir. On avait envie d'entrer dans la tête de cet homme dont nous connaissons tous son roman le plus important sans doute de son œuvre, les lettres persanes. Et c'est ce qui va nous permettre de démarrer une expérience de pensée. Les lettres persanes, c'est un roman épistolaire, il est enseigné dans tous les collèges, lycées de France. C'est la première fiction de Montesquieu qui commence donc son œuvre par un roman. Et il faut s'imaginer dans la peau de ces deux personnages. Ouzbek, un grand seigneur venu de Perse, et son ami Rika. Ils quittent la sublime ville d'Ispahan pour Paris. De quoi est-ce qu'on fait l'expérience quand on fait ce voyage, quand on fait le voyage qu'ils ont fait justement?
C'est l'expérience d'un dépaysement complet. On part d'un pays qui est régi par la religion, par l'obéissance au prince, et on arrive dans un pays qui est régi par la religion et l'obéissance au prince, et cela fait basculer toutes les certitudes. On avait envie de voir quelque chose de nouveau, et la nouveauté va au-delà de ce qu'on espérait. Et du coup, toutes les certitudes vacillent, la raison domine en Europe, et en même temps, il y a toutes sortes de conventions parfaitement ridicules, et les Parisiens sont particulièrement ridicules.
C'est vrai, ils sont ridiculisés. Vous dites que Montesquieu cherche à faire vaciller nos certitudes. Il les a fait vaciller et il continue de les faire vaciller. Il cherche à critiquer notamment le pouvoir. Et c'est ce qu'on retient souvent de l'œuvre de Montesquieu. C'est cette critique du pouvoir, du monarque absolu, de celui qu'on appelle le despote, mais pas simplement celui qui impose son ordre comme un commandement venu d'en haut, mais aussi une société qui est soumise aux croyances. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Montesquieu pour qu'il fasse cette expérience critique, radicale, pour un homme qui pourtant est l'emblème de la modération, d'une forme de pensée apaisée?
Alors, les lettres persanes sont tout sauf modérées. Elles lancent des tas d'idées, c'est un feu d'artifice d'idées nouvelles, et c'est ce qui a fait leur immense succès en Europe en 1721, et depuis, toutes sortes d'idées nouvelles, reconsidérer les fondements du pouvoir, reconsidérer les fondements de la religion, les conventions sociales, tout ce qui unit une société, et qui peut avoir des raisons, qui peut aussi n'en avoir pas. Simplement la tradition. Et la tradition, Montesquieu montrera à quel point elle peut être respectée quand elle est respectable, mais justement, certaines traditions ne le méritent pas. Et il faut regarder cela avec un œil neuf. C'est en cela que Montesquieu est véritablement celui qui ouvre la période des Lumières.
Il ouvre la période des Lumières, il en est l'un des symboles, l'un des phares. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que Montesquieu est un révolutionnaire? C'est sans doute un anachronisme, mais est-ce que c'est un homme, Montesquieu, qui pouvait imaginer une société sans despote, justement, sans monarque absolu, sans avoir le besoin de quelqu'un qui impose sa domination sur tout un peuple?
Alors, le problème du despotisme, c'est que c'est un système. C'est un système global qui implique une autorité très forte à sa tête, également la soumission des femmes, l'enfermement des femmes, également l'esclavage.
Oui.
Il faut des eunuques aussi pour garder les femmes, et tout un système qui interdit tout esprit critique. Donc, cela ne peut que... Il ne peut que le détester. Mais faire la révolution, non. C'est vraiment une idée qui est l'antithèse de ce que veut Montesquieu, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de faire réfléchir les gens. Il faut que chacun fasse sa révolution en soi-même. Et en plus, il faut donc éviter tous les changements brutaux. Cela, l'histoire l'a montré, et Montesquieu est quelqu'un qui a beaucoup lu l'histoire.
Qui a écrit sur l'histoire, notamment sur la grandeur et la décadence de l'Empire romain.
Alors, effectivement, vous avez dit écrit sur l'histoire, parce que les considérations sur la grandeur, les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, c'est un texte politique, ce n'est pas un texte historique.
Oui.
C'est à propos de l'histoire que l'on réfléchit sur ce qui peut faire tomber un empire.
Parce que justement, les civilisations sont mortelles, les empires voilà. Également, et c'est ce que montre très bien Montesquieu, même si une poutre peut continuer à tenir alors même qu'elle est mangée par les termites et pendant longtemps avant qu'on s'aperçoive qu'il est trop tard. Reprenons la route, et justement ce qui est formidable avec Montesquieu, c'est que toute son œuvre est une expérience de pensée, et c'est justement la vocation de ce rendez-vous du vendredi matin sur France Inter. Les lettres persanes, reprenons notre route avec Ouzbek et Erika, c'est une invitation au décentrement, à un détour par l'autre, vous le disiez, pour revenir vers soi. Et il y a une lettre qui le montre en particulier, c'est celle qu'Ouzbek envoie à Roxane. Roxane, l'une de ses épouses, restée à Ispahan. C'est la dernière lettre du roman. C'est une lettre d'adieu. C'est Roxane qui l'envoie, pardon, je me suis trompé dans le sens du destinataire. Qu'est-ce qu'elle lui dit à Ouzbek, qui est si loin d'elle, que celui qui ne parle que de liberté, justement, son mari, voilà. Peut aussi être un tyran.
Il est un tyran parce qu'il la maintient dans l'esclavage. Elle lui révèle...
Dans son sérail.
Voilà, dans le sérail, qu'aujourd'hui nous appellerions harem.
Oui.
Donc, elle est enfermée, comme toutes les femmes. Il pensait qu'elle était satisfaite de son rôle de femme favorite. Il avait évoqué avec beaucoup d'émotion la nuit de noces. Et elle lui révèle qu'en fait, c'était un viol, qu'elle ne voulait pas de ce mariage, qu'elle ne voulait pas de lui, qu'elle ne voulait pas de cette condition. Et c'est une lettre qu'elle écrit alors qu'elle vient d'avaler du poison et qu'elle est en train de mourir. Donc c'est une lettre sans réponse possible dans laquelle elle affirme cette vérité terrible que le suicide est la seule liberté qui peut s'offrir à une femme enfermée. Et ce qui résonne aujourd'hui évidemment avec ce que l'on connaît dans certaines sociétés.
Évidemment, et cette phrase extraordinaire, oui. Je t'ai trompé. Alors on va continuer justement pour parler de Montesquieu. Il faut aborder Catherine Volpilac-Auger. Un autre texte majeur, c'est l'esprit des lois dans lequel on retrouve donc déployer toute une démarche philosophique. Ce sont des phrases, celles issues de l'esprit des lois, dont on a l'impression qu'elles ont fondé, comment dire, les bases de notre société et de l'état de droit. On parle de Montesquieu toujours en référence à la séparation des pouvoirs. Alors, pour les spécialistes comme vous, attention, le mot de séparation n'existe pas, ne figure pas dans l'œuvre de Montesquieu. Malgré tout, pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que, écrit-il, par la disposition des trois choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça, c'est extraordinaire.
Voilà. Voilà, parce que c'est une expérience éternelle, dit-il, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et aussi, étrangement prémonitoire, effectivement, l'idée, donc, est que... Alors, la séparation des pouvoirs, c'est une vaste question. Il y a plusieurs doctrines de la séparation des pouvoirs. Voilà. Mais l'autorité judiciaire est séparée. Et au contraire, Montesquieu montre constamment... que les pouvoirs doivent agir de manière liée. Il faut simplement, il y aurait aucune vie politique possible s'ils étaient complètement séparés. Ils sont liés. Il faut les distinguer. C'est cela qui est important. Il ne faut pas qu'ils soient confiés à des personnes, aux mêmes personnes. Voilà. Et c'est cela qui permet la balance des pouvoirs. Et c'est cette balance des pouvoirs qui est essentielle dans l'esprit des lois pour que la machine constitutionnelle, en quelque sorte, puisse fonctionner.
Nous vivons dans une société aménagée en grande partie selon les vœux de Montesquieu, paradoxe alors qu'il semble appartenir très souvent au silence des bibliothèques, contrairement à d'autres auteurs des Lumières comme Voltaire ou comme Rousseau. Il a produit quelque chose de nos sociétés qui va de soi comme l'air que nous respirons. C'est l'expression qu'employait un très grand spécialiste de Montesquieu, Jean Starobinski. Vous êtes d'accord avec lui ? Montesquieu, c'est l'air que nous respirons dans nos sociétés ?
Ah mais tout à fait, parce que c'est le fondement de nos sociétés. Cette balance des pouvoirs, cette idée aussi qu'il faut respecter la diversité des usages, qu'aucun gouvernement ne peut s'appliquer à toutes les sociétés, parce que chaque société est différente. Et il faut à la fois trouver des principes universels qui permettent de dégager une science politique, qui nous permettent de comprendre l'ensemble des sociétés, des États, des gouvernements, et en même temps en comprendre la diversité.
Pourquoi est-ce que Montesquieu est aujourd'hui contraint, cantonné au silence des bibliothèques, justement ?
Oh, mais on n'est pas dans une bibliothèque ici.
Non, on n'est pas dans une bibliothèque, voilà. Et je suis heureux que nous puissions lui donner cette caisse de résonance, oui, mais... et de permettre cet écho. Deuxième expérience de pensée rapidement pour en terminer avec Montesquieu, Catherine Volpilac-Auger, un autre roman, c'est L'histoire véritable. Que fait Montesquieu ? Et c'est une démarche assez extraordinaire.
Oui, alors... l'histoire véritable, elle est tout à fait véritable, puisque c'est l'histoire d'un personnage qui vit des vies successives, suivant le principe de la métempsychose, et qui a le don de se souvenir de ses vies successives.
Il a été homme, et puis il a été femme, et puis il a été eunuque.
Il a été chien, il a été
moustique.
Éléphant. Il a été moustique, c'est tout à fait traditionnel. Il ne s'étend pas sur son expérience de moustique, il s'étend davantage sur son expérience de gros philosophe en tant que éléphant, puisque l'éléphant est le plus philosophique des animaux, c'est bien connu. Donc, il a pu envisager tout cela. C'est une expérience de pensée continuelle. Et cela permet de le sortir du silence des bibliothèques.
Et c'est un roman, justement, qui permet de se souvenir de ce qu'a apporté, de la démarche, de l'expérience de pensée à laquelle invite Montesquieu. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle donc la publication de ce magnifique volume, cette édition de l'Esprit des lois, des lettres persanes et d'autres textes chez Bouquin et dans la collection de Quarto, comme on dit. Quarto, c'est Gallimard. Je fais une confusion.
Bouquin.
Voilà. Que vous me pardonnez ?
Bouquin
Mola. Merci infiniment. Merci Catherine Volpilac-Auger.
Merci à vous.